Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
On n'est pas forcément d'accord.
8h23, bonjour Nicolas Domenac.
Bonjour à vous.
Bonjour Éric Zemmour. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints dans ce studio pour notre grand débat du vendredi matin. Alors c'est comme si rien ne s'était passé. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont retrouvé leur niveau de confiance d'il y a un an. En juillet 2018, avant ce qu'on a appelé l'été meurtrier avec l'affaire Benalla, puis la démission de Nicolas Hulot et bien sûr la crise des Gilets jaunes. 38% pour le président, 39% le Premier ministre dans le dernier tableau de bord IFOP fiducial. D'abord être à ce niveau de popularité à mi-mandat, c'est un exploit. Éric Zemmour.
Bon, faut pas exagérer non plus. Alors, c'est pas un taux de popularité gigantesque. Déjà, je me méfie, moi, de ces courbes de popularité. Mais alors là, franchement, faut
mais
pas...
Mais peut-être parce qu'elle vous contrarie, je sais pas.
Ah non, elle me contrarie pas du tout. Moi, rien ne me contrarie. Vous savez, c'est bientôt les vacances, il fait beau. Non, rien ne me contrarie, mais c'est pas un taux extraordinaire.
Mais attendez, ils viennent d'avoir une année absolument épouvantable, comme
si
on n'en souhaite
dites,
à personne
alors,
en politique.
Dites-moi,
mais c'est la question que je vous pose.
Relativement, par rapport à l'année qu'ils ont vécue, c'est étonnant. Moi, je veux bien pour répondre à cette question. Mais me dit, c'est un taux de popularité extraordinaire, je vous dis non.
Je vous ai jamais dit ça. Je
viens
de vous
m'avez dire... dit ça.
Non, non, je vous ai demandé, est-ce que vous n'êtes pas surpris de les voir dans cette situation après l'année qu'ils ont passée?
Ben non, parce que la surprise, elle était venue aux européennes.
C'est-à-dire?
Ben, à partir du moment où, avec la pire candidate du siècle, ils ont réussi à sauver les meubles et à faire un score de plus de 20%, ça voulait dire qu'il y avait une coagulation de ce que j'ai toujours appelé le bloc bourgeois. Vous savez, j'ai toujours dit Macron, c'est Louis-Philippe, etc. Et ben, donc le bloc bourgeois s'est reconstitué, d'ailleurs en partie à cause des Gilets jaunes. Oui. Je pense que c'est le parti de l'ordre qui s'est reconstitué autour de Macron. La bourgeoisie de droite, la bourgeoisie de gauche s'est mise ensemble avec les enfants de la bourgeoisie de gauche qui ont voté Jadot, on l'a dit tout à l'heure. Et voilà, c'est ça la situation politique aujourd'hui.
Alors, qu'en dites-vous, Nicolas Domenac?
Ah ben, j'en dis d'abord que Éric Zemmour aurait pu quand même faire se livrer un début d'autocritique parce que
mais
moi
c'est ce que j'espérais.
J'ai le souvenir, j'ai le souvenir d'un échange avec lui en décembre parce que je garde souvenir de nos échanges à ce micro qui sont importants. Et à ce moment-là, il nous avait fait une déclaration à la trompette. Eh ben, je l'ai retrouvé. Aussi, on peut l'écouter. Voilà, il nous dira ce qu'il en pense.
Mais je maintiens. Je sais ce que tu vas
écouter.
Ah, on les écoute. Moi, je pense que son quinquennat est mort.
Eh ben pour un mort, il bouge pas mal, hein. Alors, Éric Zemmour, quand même.
Je suis d'accord.
Je sais bien que la prophétie est un art difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir.
Je suis d'accord. Ah, je réponds.
Ah ben oui. Ah.
Alors, je maintiens que les bases sur lesquelles était inscrit son quinquennat sont complètement sapées et que son quinquennat est mort. Je voulais dire par là que il avait fait son quinquennat sur « nous allons moderniser le pays pour germaniser la France, pour que l'Europe réussisse à reprendre un nouvel essor, etc. » Tout ça a échoué. D'ailleurs, vous voyez, il est aujourd'hui très loin de l'Allemagne. Nous sommes en bataille rangée avec l'Allemagne sur tous les sujets. C'est ça que je voulais dire. Les orientations de son quinquennat sont foutues.
Nicolas Domenac, après avoir tendu avec notre
publicité sur le piège. C'est la vérité. Et je finis. Et c'est toi d'ailleurs qui m'a... Parce que moi aussi, je me souviens de ce que tu me dis. C'est toi qui m'as le premier alerté là-dessus et tu avais raison. Il a été obligé, pour survivre, de changer complètement les bases économiques de son quinquennat. Il était parti sur une politique de l'offre, et maintenant, il est dans une politique keynésienne de relance de la consommation avec 17 milliards balancés.
Nicolas Domenac vous répond.
Voilà. Oui, nous sommes d'accord sur un point,
c'est que
le quinquennat a changé, mais dire qu'il est mort, c'est inexact. Il y a toute une série de réformes qui sont prévues, et on peut au moins constater que, alors qu'il était sur le toboggan et qu'il était promis au pire des sorts, eh ben, il a repris la main, le président de la République, avec un changement de son socle en partie, qui est devenu beaucoup plus à droite. Alors, si je peux me permettre quand même...
Éric, 38%, il peut continuer de les mener.
Il peut gagner encore. Mais vraiment, les doigts dans le nez.
Mais je précise, Nicolas, tu as d'autant plus raison. Alors là, je t'apporte tout à fait que le mort, normalement, doit gagner la présidentielle de 2022.
Ah, alors,
vu la situation politique actuelle.
Il est quasiment un macroniste.
Mais attendez, il
nous ressasse la comparaison avec Louis-Philippe.
Ah bah oui.
Un roi qui, vous en souvenez, s'était terminé en révolution.
18 ans quand même, il avait tenu 18 ans.
C'est ce que j'allais vous dire quand même, il avait 18 ans, il avait quelques avantages, il était incorruptible aux danseuses, par exemple.
Oui.
Il y avait d'autres.
Il avait beaucoup d'enfants.
Non mais il y a Comparaison n'est pas raison. Il y a un truc intéressant dans ce que dit Éric Zemmour, c'est que c'est vrai que c'est la bourgeoisie, l'alliance de la bourgeoisie, de la technocratie. Sauf que autant Louis-Philippe, autant maintenant, la bourgeoisie, les bourgeoisies ne sont plus les mêmes, elles sont beaucoup plus vastes. Dire, les classes moyennes en France, c'est pas celle du temps de Louis-Philippe. Dire, ça a rien à voir. C'est pas une toute petite, c'est pas 5 à 10% de la population française. Il a pour lui 20 à 30% de base.
Nicolas Domenac, comment ont-ils remonté la pente? C'est quand même la question à laquelle j'aimerais qu'on essaie de répondre.
Je pense qu'on a eu une démonstration pendant le grand débat de sa capacité de rebond. Dire, s'il a été élu président, c'est pas pour rien. Et s'il est toujours en capacité d'agir, c'est aussi pas pour rien. Il a fait sa démonstration qu'il pouvait se mettre à l'écoute. Il a corrigé quelques travers momentanément, point d'interrogation, en tout cas de comportement, mais qui était important sur son arrogance. Il lui reste, alors ça, je ne me fais pas d'illusions, et je pense que Éric Zemmour en sera d'accord, il lui reste quand même une France morcelée, une France fracturée, socialement, territorialement, psychologiquement, économiquement, enfin bon, la France des archipels, on le sait, il n'a pas tout gagné, mais il a ressoudé son camp, et c'est très important, et même au-delà, et face à lui, il y a toujours rien de costaud, rien de fort, rien de puissant qui se dessine. C'est pour ça que sans doute, il a les moyens de l'emporter à la prochaine présidentielle.
Il n'y a rien de costaud, mais il y a toujours Marine Le Pen, le Rassemblement National, qui sont finalement la personne avec qui il dialogue politiquement, de fait, aujourd'hui.
Vous savez, dans les années 60, vous vous souvenez, Malraux disait « Entre les communistes et nous, il n'y a rien ». Et Perfit ajoutait « Si on ne fait pas de bêtises, on est là pour 30 ans ». Les deux phrases sont le corollaire l'une de l'autre. Oui. Bon. Vous êtes d'accord. Donc là, vous avez compris d'accord. Ce que je vais vous dire.
Oui.
Entre Macron et le Front National, il n'y a rien. Et c'est pour ça que Macron sera réélu. Le Front National est à la fois le dernier opposant au pouvoir macronien et en même temps son plus fidèle soutien, puisque grâce à lui, grâce au Front National, grâce à la bêtise de la droite depuis 30 ans qui refuse de s'allier avec lui, le Macron a un boulevard devant lui. Vous comprenez ? C'est la faiblesse des autres. La faiblesse des autres, non seulement le Front National, non seulement cette impasse politique...
La force d'Emmanuel Macron, c'est la faiblesse des autres. Je vous ai bien compris.
Oui, c'est ça ce que j'ai dit. Et non seulement la faiblesse du Front National et des limites de Marine Le Pen, ce que Jospin appelait l'antifascisme de théâtre, mais aussi ses limites à elle, personnelles, qu'elle a montrées lors du débat, etc. On n'y reviendra pas là-dessus. Les limites de la droite, je l'ai dit. Et regardez les Gilets jaunes, par exemple, c'est très intéressant. Les Gilets jaunes ont vraiment fait peur à Emmanuel Macron. Je rappelle qu'en décembre, il y avait un hélicoptère qui tournait autour de l'Élysée. Ils ont vraiment eu peur du 10 août 1792. Non, mais c'est pas rien,
bien
quand même.
Mais vous avez raison. Juste, je veux vous faire remarquer que, et c'est ce qui m'a frappé, moi, dans cette enquête, c'est que le président de la République continue de progresser chez les retraités et chez les ouvriers.
Alors, chez les ouvriers, ça me sidère. Mais chez les retraités, je comprends, puisque, évidemment, c'est le parti de l'ordre. Chez les ouvriers, alors là, j'avoue que ça m'épate. Mais je dois dire que j'étais là. Je pense que les Gilets jaunes, c'est pareil. Ils se sont laissés complètement manipuler, retourner par l'extrême gauche, et ça a donné ce que ça a donné.
Ont-ils une poire pour la soif ou un petit matelas pour continuer les réformes, Nicolas Demel?
En tout cas, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'avancer. Hein, c'est pas seulement c'est le parti de l'ordre, comme le disait Éric Zemmour, mais pas seulement. Ils sont là, on les charge de réformes qui devraient porter leurs fruits. Mais les ouvriers, dont on disait qu'on ne sait pas pourquoi, il y en a un peu plus, pas beaucoup, mais un peu plus. Hein. C'est quand même qu'il y a eu quelques mesures prises pour le pouvoir d'achat.
Qui sont ressenties.
Alors maintenant, il en reste à prendre sur les impôts, par exemple. Hein, c'est pas fini. C'est un chemin devant nous. Mais alors, moi, je me méfie quand même, parce qu'au moment où tout va bien, il y a toujours l'arrogance qui revient. Il y a toujours ce moment, comme il n'y a personne en face, ou ce moment, ce vertige des hauteurs qui fait que, attention.
C'est un chemin qui est ouvert devant nous. On va donc continuer d'observer tout ça, de débattre avec vous avec grand plaisir. Merci à tous les deux. Merci. Je vous rappelle que dimanche, l'invité du grand jury RTL, Le Figaro LCI, est donc Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale.